de ces messages que Dieu nous donne qui nous définissent en tant qu'Église, en tant que peuple, qui nous définissent par rapport à là où nous allons avec Dieu et le choix que nous avons décidé de faire dans notre génération. Le message que nous avons donné la semaine dernière est un de ces messages et celui-ci également. Je ne peux que vous encourager vivement à les prendre, les écouter, les réécouter, les méditer, les étudier pour que nous puissions en tant que peuple avancer avec Dieu dans le sens de ce qu'il a pour nous. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il y a une histoire qui est très intéressante, que nous avons déjà commencé à voir. C'est l'histoire de la tentation de Jésus. La parole de Dieu nous dit au verset 1 déjà que Jésus a été emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et il nous a dit qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous aussi, vous auriez eu faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, donnera des ordres à tes anges, à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Le diable ici a utilisé un verset de la parole de Dieu pour amener Jésus à faire quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et Jésus, vu qu'il avait, lui, le discernement, et que son objectif premier n'était pas de se glorifier, n'était pas de prouver quoi que ce soit, son objectif n'était pas de répondre à ses propres besoins, son objectif premier, c'était d'honorer Dieu. La situation était très simple pour lui. Il a répondu au verset 7, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il a été écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Il a aussi invité à faire quelque chose qui pouvait ressembler à un raccourci. Jésus est venu pour acquérir tous les royaumes du monde pour le Père. Il est venu pour briser ce qui nous séparait de Dieu. Il est venu pour faire en sorte que les hommes puissent être réconciliés avec Dieu. Il est venu pour assujettir les royaumes de ce monde au royaume de Dieu. Le diable lui a proposé de le faire, mais à sa manière à lui. Alléluia. Ce que nous avons déjà commencé à voir, c'est qu'il y a des choses dans nos vies, en tant que chrétiens, il y a des besoins dans nos vies, il y a des appels dans nos vies, il y a des choses que Dieu a mis sur nos vies qu'il veut que nous fassions. Et en général, c'est à travers ces choses que la tentation va venir de ne pas aller dans la droiture avec Dieu. C'est à travers ces choses que nous serons invités à renégocier la parole de Dieu. Que nous serons invités à renégocier notre engagement envers Dieu et à renégocier ce que nous croyons. Alléluia. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est venu voir Jésus pour lui proposer de manger. Et Jésus, au moment où Jésus avait faim, il n'est pas venu quand il n'avait pas faim. Il est venu quand il avait faim. Et Jésus l'aurait suivi, il aurait désobéi à Dieu. Il est aussi venu lui proposer les royaumes de ce monde. Mais il suffisait juste de s'agenouiller parce que le chemin que Jésus allait prendre était un peu plus compliqué, vous comprenez? Passer 3 ans à enseigner, à guérir, à prêcher, aller de ville en ville, de village en village, ça fatigue. Et subir l'opprobre et les attaques et finir par se laisser crucifier. Et ça aurait été beaucoup plus simple, entre guillemets, de dire juste « je vais l'adorer un petit peu et après je gagne ce que je suis venu obtenir, je n'ai pas à souffrir. » Mais Jésus a dit non. Parce que la vérité de Dieu, la vérité de l'autorité du Père qui l'empêchait de s'agenouiller devant le diable était plus forte en lui que le désir pour lui d'obtenir quoi que ce soit. En réalité, il n'était pas en train de se servir lui-même, il était en train de servir Dieu. Et dans notre génération, il y a une invitation qui est lancée de nos jours à l'Église. Une invitation à répondre à nos besoins personnels en allant en dehors de la volonté de Dieu. Ça peut être des besoins physiques, des besoins émotionnels, des besoins mentaux. Qui sait, on ne sait jamais. Il y a toutes sortes de besoins. Et tout ce à quoi nous estimons avoir droit, parce que nous avons un sens de droit assez développé, un sens de devoir un peu moins, malheureusement. Donc tout ce à quoi nous estimons avoir droit en tant qu'être humain, nous pensons que tous les moyens sont bons pour les obtenir. Et ce que Jésus nous a montré ici, c'est que tous les moyens ne sont pas bons. Que la seule chose qui compte, c'est ce qui honore et qui glorifie Dieu. Même si pendant ce temps-là, il fallait qu'il ait faim et qu'il ne puisse manger dans l'immédiat, soit. Nous allons en parler un peu plus tard pour que nous comprenions comment cela s'applique à nos vies. Soit. Mais la chose première, c'est que Jésus, c'est que Dieu soit glorifié dans nos vies, que Jésus soit glorifié. Dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Tentation d'arriver jusqu'à sa destinée en prenant des raccourcis. Tentation pour nous, pour l'Église en tant que corps, dans notre génération. Nous avons vu cela la semaine dernière. De modifier un petit peu la manière de faire pour, non pas la manière de faire dans le sens où on ne se réunit pas dans un immeuble avec une croix dessus, mais dans un cinéma, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle plutôt des choses essentielles. Parce qu'ici, il s'agit de quelque chose d'essentiel. Qui est-ce que vous allez adorer? Et il y a la tentation pour l'Église de renégocier les fondamentaux de l'Évangile pour pouvoir gagner les gens à Jésus, pour qu'ils puissent trouver que finalement les chrétiens sont des gens bien, ils ne sont pas bornés, ils ne sont pas fermés, ils ne sont pas arriérés dans leurs pensées, on peut aller dans leurs églises parce qu'ils reconnaissent, n'est-ce pas, que toutes les voies vers Dieu sont pareilles. Et de plus en plus, l'Église est en train de diluer son message, est en train de renier Jésus. Pour que le monde puisse nous trouver bien. Mais la réalité est celle-ci. Il ne s'agit pas d'être aimé, d'être confortable, d'être apprécié. C'est C.S. Lewis d'ailleurs, que certains connaissent comme l'auteur des Chroniques de Narnia et d'autres connaissent comme un grand apologétique ou apologiste. Comment est-ce qu'on dit en français? Apologetic. Apologiste? Un grand apologiste chrétien qui était professeur à Oxford University, qui est venu à la fois avec beaucoup de réticence, mais en tant que critique littéraire, il a dû reconnaître la véracité des évangiles. Et c'est comme ça qu'il est venu au Seigneur. Et il dit ceci, il dit « Ceux qui cherchent une religion où ils seront très confortables devraient renoncer au christianisme. » Mais c'est une parole qui est très importante pour notre génération de chrétiens. Non seulement la dilution du message de l'évangile pour que les gens du monde nous aiment, parce que nous avons peur d'être critiqués, soit parce que nous voulons qu'ils viennent à Jésus, donc si on rend les choses très simples, rien qui les irrite, rien qui les offusque, ils vont venir, mais quand ils seront venus, ils viendront à quoi? Ou soit parce que nous avons peur d'être critiqués et nous voulons être confortables. Mais Dieu ne nous appelle pas à être confortables, il nous appelle à vivre dans la vérité. Nous pouvons être très confortables sur terre et avoir honte le jour où nous verrons le Seigneur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'être à Jésus, et beaucoup de gens pensent que oui, mais j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est bon. Non, ce n'est pas bon, ce n'est que le début. Parce que la vie, ce que Jésus nous dit ici, c'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et cette phrase vient de Deutéronome, n'est-ce pas? Lorsque le prophète explique au peuple de Dieu le chemin par lequel Dieu les a fait passer dans le désert et tout ce qu'ils ont vécu, afin qu'ils comprennent que l'homme ne vive pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et littéralement, ce que ça veut dire, c'est que l'homme vivra de toute chose qui vient de l'Éternel. En d'autres termes, nous existons sur terre, notre vie nous vient de Dieu et notre existence sur terre doit être conditionnée exclusivement par ce qui vient de Dieu. En d'autres termes, nos pensées, nos paroles, nos actes, nos choix, nos décisions, nos gestes doivent être issus de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Je veux vous entendre ce matin. Et c'est pour cela que Saint Augustin a dit ceci, « Tu nous as fait pour toi et notre âme ne trouve de repos que lorsqu'il se repose en toi. Et notre âme se repose en lui lorsque nous avons épousé la vérité de l'Évangile et que nous la vivons. » Pas lorsque nous sommes en train de la renégocier pour que les gens puissent nous trouver bien. Et les fondamentaux, comme nous avons vu la semaine dernière, conduisent inéluctablement à une certaine vision du monde. Nous venons à Jésus, c'est le premier pas. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Ensuite, en entrant dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à épouser la vision de Dieu. Si tout ce que nous sommes vient de Dieu, il y a un apologiste chrétien, J. Richard, qui a dit ceci, et je l'ai écrit pour ne pas oublier. Dieu est la réalité fondamentale à partir de laquelle toute autre chose découle. Vous suivez? Dieu est la réalité fondamentale. Et tout le reste vient de lui. Et ça nous met tout de suite en porte-à-faux avec notre génération qui ne croit pas que Dieu existe. Donc, évidemment, tout ne vient pas de lui. Tout vient de l'homme. Et nous disons que tout vient de Dieu. Nos valeurs viennent de Dieu. Nos principes viennent de Dieu. Nos désirs viennent de Dieu. Nos décisions viennent de Dieu. Nos vies viennent de Dieu. Notre destinée vient de Dieu. Et les gens qui ne croient pas en Dieu sont ici et estiment que tout vient de l'homme. Non seulement tout vient de l'homme, mais tout existe pour le bonheur de l'homme. Et c'est le précepte de base de l'humanisme. Tout existe pour le bonheur de l'homme. Donc, tout doit être mis en place pour que l'homme soit bien. Et il y a des chrétiens qui sont en réalité des chrétiens humanistes. Parce que pour eux, tout existe pour le bonheur de l'homme. L'évangile existe pour le bonheur de l'homme. Jésus existe pour le bonheur de l'homme. Dieu existe pour le bonheur de l'homme. Et quand l'homme sent le moindre inconfort, il se fâche contre Dieu. Parce que Dieu ne joue pas son rôle de majordome céleste. Et c'est l'évangile que nous entendons de plus en plus prêcher dans le monde charismatique où nous aimons les sensations. Et nous aimons nous sentir bien, nous aimons que l'on nous caresse. Comme nous avons vu la semaine dernière, comment dans les derniers temps, nous dit la parole de Dieu, nous allons nous amasser des docteurs qui vont nous caresser les oreilles. Mais la question est de savoir, est-ce la vérité? Tout nous vient de Dieu. Saint Augustin disait que notre âme ne trouve de repos que lorsqu'elle se repose en lui. Elle ne se repose pas en lui si elle est en dehors de lui, exigeant de lui ce qui fait le bonheur de l'homme. En réalité, tout existe pour le plaisir de Dieu. Vous existez pour le plaisir de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on épouse le plaisir de Dieu, on trouve son plaisir en Dieu. Alléluia. Donc, c'est fondamental. Dieu, qui est Dieu? Qui est Jésus? Pourquoi Jésus est venu? La rédemption, la chute et la rédemption, le salut, la réconciliation avec Dieu, le pardon. Ce sont les fondamentaux qui sont non négociables. S'il n'existait pas, la foi chrétienne n'existerait pas. Et ces fondamentaux donc conduisent, comme j'ai dit précédemment, inéluctablement à une certaine vision du monde. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et parce que nos principes viennent de Dieu, nos principes vont être fondamentalement différents des principes de personnes qui ne reconnaissent pas Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous allons dire, je vis de cette manière parce que c'est agréable à Dieu, je ne vivrai pas de cette manière parce que ce n'est pas agréable à Dieu, et d'autres diront, je ne crois pas que Dieu existe, voilà comment je vais vivre, et nous allons regarder, nous allons dire, oui mais pourquoi moi je ne peux pas vivre comme ça? Parce que nous ne sommes pas la réalité ultime, Dieu est la réalité ultime. Et souvent, nous voyons cela uniquement au niveau de comportement. Oui, mais je veux faire ça, on me dit que je ne peux pas. Ce n'est pas une question simplement de comportement. Nous allons arriver plus tard au comportement. Ça commence déjà avec la philosophie de base qui guide votre existence. Quand nous avons intégré les fondamentaux, cela conduit à une certaine façon de vivre et de voir le monde. Il y a un autre apologiste chrétien, William Lane Craig, c'est le philosophe chrétien le plus connu de nos temps, qui passe beaucoup de temps à débattre avec les athées. Et il a raconté sa conversion. Et au début, il a commencé à avoir des questions sur Dieu. Donc, il est allé dans une église. Et il a vu les gens qui étaient là-bas et ça l'a dégoûté. Ça l'a dégoûté parce qu'il voyait tous ces jeunes comme lui qui vivaient comme les gens du monde. Et il trouvait que sa vie à lui était même plus clean que la leur. Or, lui était conscient du fait qu'il ne connaissait pas Dieu, qu'il était un pécheur. Et eux, ils faisaient n'importe quoi, mais allègrement, sans aucune conscience de faire du mal, de pécher contre Dieu. Et ça l'a dégoûté, ça l'a endurci, il s'est retiré, il s'est enfermé, il était hostile à tout le monde, désagréable avec tout le monde. Enfin, pour raccourcir, Dieu a continué quand même à le travailler. Et pendant une période de 6 mois, il lisait le Nouveau Testament, il se posait des questions, et il cherchait, et il voulait savoir. Et le jour où il s'est converti, il a dit, quand il s'est converti, il a donné sa vie au Seigneur, il est sorti de chez lui, et il a regardé, tout d'un coup, il a vu la voie lactée, il a vu le ciel, il a regardé tout ça, il était émerveillé. Mais la conscience du fait que celui qui est à l'origine de tout cela, il l'a rencontré. Il était époustouflé. Et pour lui, c'était devenu une évidence qu'il allait consacrer sa vie à parler de ce Dieu. Il allait consacrer sa vie à amener l'évangile partout. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de la réalité de Dieu. Il a pris conscience de la grandeur de Dieu. Il a pris conscience de la bonté de Dieu. Il a pris conscience de cette merveille qui dépasse l'explication humaine. Il a eu une réelle rencontre, une réelle révélation avec Dieu. Et à partir de là, il y a quelque chose de très simple qu'il a compris, c'est que sa vie, désormais, devait servir à ce Dieu. Et nous avons besoin de ce genre de révélation de Dieu. Nous avons besoin que ce fondamental de la vie chrétienne, cette réalité d'un Dieu qui est sans commencement, qui est en dehors du temps, qui est sans cause, qui est infini en toutes choses, qui est au-delà de la connaissance, de l'explication humaine, qui se suffit à lui-même, mais qui, à cause de son amour, à cause de sa miséricorde, s'est manifesté sur la terre comme un être humain pour nous amener à lui, ce Dieu que nous avons rencontré. La réalité nous habite au point où cela change notre manière de fonctionner. Il y a un principe très simple, une valeur très simple qui découle de cette compréhension de quelque chose qui semblait très basique, n'est-ce pas? C'est le fait que notre vie vient de Dieu et nous la vivrons pour lui. Nous la vivrons pour lui. C'est un principe de base qui est le résultat du fait d'avoir intégré un élément fondamental de la vie chrétienne. Fondamental. Et là, ce n'est pas une question de « est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Oui, mais pourquoi je ne peux pas faire ça ?» C'est une question de « je viens de Dieu, je vis pour Dieu, je suis sur terre pour Dieu, tout ce que j'ai découle de lui et quand je quitterai la terre, je serai avec lui. » Alors, l'opinion de qui doit avoir de la valeur à vos yeux ? Et ces principes qui découlent de la compréhension des fondamentaux de l'évangile sont essentiels. Parce que ce sont ces principes, ces valeurs qui régissent nos actions, qui régissent nos décisions et qui régissent nos vies. Jésus comprenait très bien à quel point la vie quotidienne et les pressions de la vie quotidienne peuvent venir nous aveugler et prendre le dessus sur la compréhension des choses de Dieu. Est-ce qu'il le comprenait? Il le comprenait très bien. Et nous devons nous réjouir du fait que Jésus a vécu sur la terre comme un être humain. Il a vécu sur la terre comme un être humain. Donc, il sait exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Et nous devons nous réjouir aussi du fait qu'il nous a montré l'exemple d'un être humain qui a vécu sur la terre et qui n'a jamais fait de compromis. Nous n'avons donc pas d'excuses. Dans Matthieu 6, 33, lorsque Jésus a énuméré les différentes choses qui pourraient les aveugler, il dit « ne vous inquiétez pas de ceci, ne vous inquiétez pas de cela », il leur a dit « cherchez premièrement, dites premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il y a une vision du monde, une vision du monde qui est celle de Dieu, qui comporte des principes de fonctionnement que nous épousons, que nous découvrons, que nous manifestons au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne. Et ces principes sont importants. Et je vous ai souvent expliqué qu'une des réflexions que j'ai eues avant de venir au Seigneur, lorsque j'étais très, très hostile à l'Évangile, c'était de me poser la question de savoir quelle est la nature de la vérité. Est-ce qu'on peut parler d'une vérité absolue où tout est relatif? Je ne vais pas vous ennuyer avec tout le cheminement de réflexion, mais j'étais arrivée à une conclusion. C'est que la vérité, par sa nature, ne peut être vérité que si elle est absolue. Si elle est relative, elle cesse d'être vérité. Elle cesse d'être vérité. Elle devient opinion. Mais ce que Jésus est venu nous proposer n'est pas une opinion. C'est la vérité. Et il dit, je suis la vérité. Et tous ceux qui viennent à lui doivent méditer cela profondément au point où ça nous amène à voir comme Jésus a vu, à concevoir cela comme Jésus l'a conçoit. Et ce n'est pas une question d'exclure un tel ou d'exclure un tel. La vie par sa nature est exclusive. L'inclusivité est un mensonge. Par exemple, je ne suis pas blonde. Je peux me teindre les cheveux, mais ça ne change pas la réalité du fait que je ne suis pas blonde. Est-ce que les blonds m'excluent? Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Jésus est la vérité. Est-ce que ça exclut les gens qui ne sont pas à Jésus? Non, c'est une réalité. Ce qui saurait exclure les gens, c'est leur dire qu'ils ne pourront jamais avoir accès à cette réalité. Je vous le dis parce que vous allez, et vous entendez déjà les gens vous dire, mais vous, vous excluez les gens. Non. Jésus est la vérité, mais c'est une vérité qui est inclusive dans le sens où elle est ouverte à tous. Il ne s'agit pas de la dénaturer, il s'agit de l'accepter. Vous me suivez? Donc cette valeur première, le principe de base qui est que nos vies viennent de Dieu, donc nous la vivons pour lui. Il devient la mesure de toute chose. Principe simple, est-ce que c'est agréable à Dieu? Si ce n'est pas agréable à Dieu, ça ne me convient pas. Mais il y a d'autres principes qui entrent en jeu. Dans cette question de ce qui est absolu, et vous allez être confronté constamment à des gens qui vont vous dire, « Oui, mais s'il ne fait rien de mal, pourquoi vous dites que ce n'est pas bon ?» C'est très simple. Parce que nous venons de Dieu. Nos principes viennent de Dieu. Je ne choisis pas de décider que les tresses, c'est très bien, c'est une vérité biblique. Mais alors, les cheveux blonds, non, ce n'est pas une vérité biblique. Maintenant, il y a des églises qui font ça. Pour vous déterminer la longueur de vos cheveux et la nature de vos cheveux, et ainsi de suite. Non. Nous déterminons plutôt que la modestie est une vérité biblique. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est une vérité biblique. Et le fait que je ne trouve pas bien que quelqu'un soit immodeste ne veut pas dire que je juge la personne, veut dire simplement que j'ai des principes de vie qui viennent de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont abdiqué leurs principes qui viennent de Dieu par peur d'être jugés par des gens qui n'ont pas Dieu comme référence. Mais il est essentiel pour nous de comprendre que les lois morales de Dieu s'appliquent à nous. Et que quand nous avons, il n'y a pas de loi morale sans Dieu. Parce que comment pouvez-vous avoir une loi morale sans Dieu? Il faut quelqu'un qui est en dehors de l'humanité qui décide de ce qui est bon, ce qui est mauvais. Nous avons vu au fur des années comment les êtres humains ont évolué dans le sens de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand il n'y a personne en dehors de l'homme qui met les principes en place, il n'y a pas de limite à la perversité humaine. Et c'est très important pour nous en tant que chrétiens de comprendre que nos principes sont issus de la loi morale de Dieu. Et nos principes ne sont pas quelque chose qui doivent être changés en fonction des changements dans notre société. L'Église a toujours été appelée à avoir une voix prophétique et non pas à se conformer. La parole de Dieu nous dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent. Je répète, Romains chapitre 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous sommes appelés à ne pas nous conformer. Une vision du monde. Dites vision du monde? Nous avons une vision du monde. Les gens qui ne croient pas en Dieu ont une vision du monde. Et les choix qu'ils font sont très logiques par rapport à la vision du monde qu'ils ont. Les décisions qu'ils prennent sont parfaitement logiques. Ce qui est illogique, c'est que les gens qui sont de Dieu sont en accord avec eux. C'est ça qui est illogique. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens vivent dans une tension permanente. Parce qu'il y a un principe qui est fondamental. Et les psychologues vont vous le dire. Il n'y a rien qui rend plus malheureux que le fait d'avoir des actions qui ne correspondent pas à ce que l'on croit. Lorsque vous n'êtes pas fidèle dans vos actions envers ce que vous croyez, vous êtes fondamentalement malheureux. Et vous êtes plus malheureux en étant en accord avec les gens qui sont en désaccord avec Dieu que vous ne le sauriez si vous étiez dans votre comportement en accord avec Dieu et vous étiez critiqué. Tout le monde a compris cela. Pourquoi les gens refuse, commence à renégocier les fondamentaux, décide que finalement, peut-être que Dieu existe, oui, mais Dieu n'intervient pas dans le monde. Peut-être que Jésus n'est finalement pas le Fils de Dieu des chrétiens. Pourquoi il renégocie cela? Pour ne pas souffrir. Oh, nous souffrons plus en étant inconstants vis-à-vis de ce que nous croyons réellement, que ce que nous souffririons si nos comportements étaient en phase avec ce que nous croyons et que nous étions persécutés. Il y a une joie à être en harmonie avec Dieu. Il y a une paix à être en harmonie avec Dieu. Les fondamentaux que nous croyons ont un impact sur nos principes. Je vous ai donné un principe, nous allons voir d'autres. Le principe de l'amour. Et vous allez entendre beaucoup de gens de ce côté-ci vous parler de l'amour. Mais quand vous commencez à explorer, vous allez comprendre que nous ne voulons pas dire la même chose par l'amour. Vous avez souvent entendu les gens peut-être vous dire, vous les chrétiens, vous n'avez pas d'amour. Et cette accusation vient souvent lorsqu'on vous demande votre avis sur quelque chose et que vous n'êtes pas d'accord avec leur choix. Mais vous n'avez pas d'amour, vous jugez les gens. La compréhension qu'ils ont de l'amour est totalement erronée. Jésus, Dieu, nous dit d'aller aimer. Pas de nous mettre en accord avec les gens. C'est très important de le comprendre. Dieu nous a donné le mandat, la responsabilité, le commandement d'aimer. Pas de nous mettre en accord avec les gens. Et être en désaccord ne veut pas dire ne pas aimer. Au contraire, Dieu était fondamentalement en désaccord avec nous. Il était totalement en désaccord avec nous. Lisez les prophètes dans son interaction constante avec son peuple d'Israël. Parce qu'Israël vivait souvent selon la loi des peuples qui l'entouraient et s'éloignaient de Dieu. Et quand les prophètes parlaient de la part de Dieu, Dieu était en colère. Il n'était pas du tout en accord avec eux, mais il les aimait. L'amour est encore plus fort lorsque vous n'êtes pas en accord avec les gens. C'est facile de dire que je t'aime parce que nous sommes tous d'accord. On parle, on déjeune ensemble, on est d'accord sur tout. Et quand je parle, je dis, mais elle est géniale cette fille. Elle est trop bien cette fille. Mais si nous avons eu des discussions un peu chaudes et que non, je ne suis pas d'accord, mais je pense que, je risque de partir de là. Bon, elle est bien, mais quand même, hein. Je sens qu'elle est un peu bornée. Hein. C'est une fille sympa, mais quand même. Hein. L'amour est moins expressif, n'est-ce pas? Et c'est ça le défi de l'Église. Le défi de l'Église, c'est d'aimer les gens avec qui nous ne sommes pas d'accord. Et aimer profondément, aimer complètement, aimer totalement. Parce que l'amour de Dieu ne nécessite pas que nous soyons d'accord. Par ailleurs, l'amour de Dieu ne nécessite même pas que nous soyons aimés. Jésus a aimé les gens qui le détestaient. Il a aimé au point où il leur a pardonné. Quand il le crucifiait, il pardonnait. Il pardonnait. Charles Colson, dans son livre sur The Faith, il a raconté l'histoire d'une famille Amish. Vous connaissez les Amish? Et cette famille, d'une communauté Amish, ils ont ces gens ont subi une situation très, très douloureuse. Un homme s'est introduit un jour dans une salle de cours et il a pris tout le monde en otage. Il a fait sortir les profs, il a fait sortir les garçons et il a gardé à peu près 8 filles en otage. Il a décidé de les tuer. Il voulait d'abord les violer et ensuite les tuer. Il les a enchaînées et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 de ces filles qui se sont proposées pour qu'il les tue et qu'il libère les autres. D'abord, il y a une fille qui s'est proposée, après sa petite sœur de 11 ans, aussi s'est proposée qu'il les tue, elle, et qu'il libère les autres filles. Il a dit non. Mais quand les autres sont sortis, ils ont couru vite pour aller appeler la police. Et la police est arrivée beaucoup plus vite qu'ils ne pensaient. Et quand il a vu que la police était arrivée, il a commencé à tirer. Il a tiré partout, il a tiré sur toutes les filles. Il y a 8 qui ont survécu. Il a été appréhendé et il s'est tué lui-même. Avant qu'il ne l'appréhende, il s'est tué lui-même. Dès que la police a fait irruption dans la salle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé après, c'est très intéressant. La petite qui s'était proposée a survécu. Sa sœur, la grande sœur, est décédée. Cette communauté était en deuil. Mais la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller vers la famille de cet homme, sa femme et ses enfants. Et l'argent qui a été collecté pour les familles endeuillées, ils ont décidé de partager avec la veuve de cet homme pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants. Et ils sont même allés à son enterrement. Et quand les journalistes leur ont demandé pourquoi ils ont fait ça, ils ont dit, Dieu leur a donné le commandement d'aimer. Ça, c'est l'amour chrétien. Et c'est cet amour-là que le monde ne comprend pas lorsqu'ils nous accusent de ne pas aimer parce que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais c'est à nous de démontrer ce que c'est réellement aimer. Nous sommes censés démontrer ce que c'est réellement aimer et non pas capituler et commencer à nous mettre en accord avec des choses qui sont contre le principe de Dieu. Nous n'allons pas, je prie, vivre de telles choses nous-mêmes, mais nous avons tous la possibilité, chaque jour, de montrer ce que c'est le vrai amour de Dieu. Et quand l'Église va commencer à montrer ce que c'est le vrai amour de Dieu, qui n'est pas la capitulation, qui n'est pas le compromis, mais l'amour qui vient du fait que nous sommes ancrés en Dieu, nos vies viennent de lui et que nous recevons de lui justement la capacité d'aimer parce que nous sommes en symbiose avec lui, c'est là où nous serons une bénédiction pour notre génération. Nous n'allons pas bénir notre génération en abandonnant Dieu pour nous mettre en accord avec eux. Nous allons bénir notre génération en restant pleinement ancrés en Dieu, totalement en phase avec la pensée de Dieu, même quand elle n'est pas populaire, parce que c'est là où nous sommes connectés à la puissance de Dieu. Cette puissance qui nous permet d'aimer dans les circonstances les plus extrêmes, cette puissance qui nous permet d'être une vraie bénédiction, de savoir quand ça va mal pour les gens, d'être avisé par le Saint-Esprit quand quelqu'un a besoin de prière, d'être avisé par le Saint-Esprit quand quelqu'un sur votre lieu de travail va souffrir une tragédie et pouvoir prier pour la personne, d'être en mesure de prier pour l'enfant de votre collègue qui est malade. C'est quand vous êtes ancré en Dieu, en phase en Dieu, que cette puissance de Dieu peut agir à travers nous pour réellement faire de nous une bénédiction pour notre génération. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est important que nous saisissions ces choses. Les fondamentaux de l'évangile conduisent à des principes, une certaine vision du monde qui vient de Dieu. Et qui, cette vision du monde qui n'est pas seulement une question d'idées, mais il y a toute la puissance de Dieu qui est libérée à travers nous lorsque nous choisissons d'être en accord avec Dieu. Si l'Église est tellement faible dans le monde occidental, c'est parce que dans sa pensée, dans son action, elle s'est éloignée de Dieu. Donc la puissance de Dieu n'est plus manifestée. Elle n'est plus manifestée. Nous avons davantage besoin d'être en accord avec Dieu pour pouvoir réellement montrer qui est Dieu que d'être en accord avec nos contemporains. L'apôtre Paul, il y a un endroit où il a raconté ses déboires. Et c'est le cas de le dire. Il a été flagellé, il a été battu, il a été lapidé, il a été laissé pour mort. Pourquoi? Parce qu'il a changé son évangile? Non, parce que les gens n'ont pas apprécié ce qu'il disait. Ils n'ont pas aimé ce qu'il disait. Ils ont trouvé que c'était un affront à leur vision du monde. Et à l'époque, ils ne se sont pas contentés de l'insulter. Ils ne se sont pas contentés de le dénigrer. Ils ne se sont pas contentés de mettre des vidéos sur YouTube pour se moquer de lui. Comme dans certaines parties du monde aujourd'hui, les chrétiens payent de leur vie leur engagement pour Jésus. Alors pourquoi nous n'avons même pas la hardiesse d'accepter la moquerie? Que Dieu nous délivre de la faiblesse. Personne ne suit une religion dont les adeptes sont faibles. Personne. C'est notre force de conviction et la puissance de Dieu qui agit en nous. Cette capacité extraordinaire d'aimer les gens qui nous haïssent, qui va amener les gens à prendre conscience de la réalité de l'évangile. Tu as besoin de courage, dites courage. Courage. Je vais vous demander de regarder avec moi dans 1 Pierre chapitre 4. Il y a un autre élément, un autre principe de base qui est une conséquence logique de ce que nous croyons. Et ce principe de base est un principe que je vous invite à épouser de tout votre cœur. Glory to God! De tout votre cœur. 1 Pierre chapitre 4. L'apôtre Pierre écrit à des chrétiens qu'il appelle étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie et la France. Alléluia. Et c'est une époque où les chrétiens subissaient beaucoup de persécutions. Au verset 1, il nous a dit ceci. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Dites calomnient. Calomnie. L'apôtre Paul est en train de dire à ces gens, maintenant vous ne vous comportez plus comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous comportiez comme eux avant, n'est-ce pas? Alléluia, qui est-ce qui a entendu le témoignage de notre lituanienne ici présente? Elle se comportait comme eux avant et après elle a changé. Et c'est le témoignage de la majorité d'entre nous. Bon, certains ont grandi avec l'évangile dans la bouche, mais nous autres, non. Et que maintenant vous avez changé. Donc ce qu'il est en train de vous dire ici, c'est que vous vivez différemment et il vous calomnie. Il vous calomnie. Et beaucoup de personnes qui viennent à Christ ont du mal à continuer parce que les gens les calomnient. Leurs amis disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais c'est pas possible. Tu n'es plus comme avant. Mais oh, franchement, t'es pas drôle. Non, tais-toi, on ne veut pas t'écouter. Toi et ton Jésus. Et parfois, vous vous sentez un peu exclu. Ça m'est même arrivé dans ma famille. Ah, les gens qui faisaient des choses ne m'en parlaient pas parce qu'ils savaient que je n'allais pas approuver. Ah, ils concordaient des choses entre eux. On va faire ça, on va faire ça. Tu ne le dis pas, tu ne le dis pas. Et après, je découvre, vous avez fait ça. Mais pourquoi? Écoute. Et vous vous sentez un peu quand même. Dites à votre voisin, il faut t'y habituer.
Il faut t'y habituer.
C'est normal.
C'est normal.
C'est normal. Glory to God. Le seul problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas décidé d'accepter ces choses comme normales. Maintenant, au verset 12, regardez avec moi. Vous allez bientôt savoir de quelles valeurs il s'agit. Nous sommes en train de voir les valeurs ou les principes qui sont la conséquence logique de ce que nous croyons, n'est-ce pas? Je vous invite sérieusement à les accepter comme vos principes de vie. Ça va vous rendre heureux. Alors, 1 Pierre, je suis dans 2 Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait dans 2 Pierre? Au verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. C'est faux, ça. La persécution, la souffrance. Dites souffrance.
Souffrance.
Souffrance. Dites-le avec joie, souffrance.
Souffrance.
Avec un grand sourire, souffrance. Souffrance. Ça fait partie du package. Dès lors où vous l'avez accepté, ça cesse d'être compliqué. Glory to God. Mais non pas la souffrance de la maladie. Par ces meurtres ici, nous avons été guéris. Mais la souffrance qui est le résultat de la calomnie, de la persécution, de la maltraitance, des gens qui ne sont pas d'accord avec votre foi. Alléluia. Quand vous avez décidé de l'accepter, vous allez arrêter de vouloir les amadouer. Comment est-ce que je vais dire la chose sans trahir Jésus, mais sans m'attirer les foudres de mes amis? Regardez ce que dit l'apôtre Pierre ici. Donc, il dit, ne trouvez pas étrange. Ça n'a rien d'étrange. Dites à votre voisin, ça n'a rien d'étrange. C'est un principe de base. Allez, 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 prêchez. De la vie chrétienne. Souffrir pour l'évangile. Alléluia. Ne trouvez pas étrange, donc, d'être dans la fournaise. La fournaise de l'épreuve. Il y a un homme chinois qu'on appelle The Heavenly Man, l'homme céleste. Et il a écrit un livre sur ses expériences. La torture, l'emprisonnement à cause de sa foi. Et il appelle l'homme céleste parce qu'une fois, lorsque la police était venue l'arrêter, ils ont demandé comment il s'appelait et où était son adresse. Et ils savaient que s'ils commençaient à dire qui il était, où était son adresse, ils allaient pouvoir arriver jusqu'à d'autres chrétiens. Donc, il a parlé très haut, « Je viens du ciel !» Et les autres chrétiens qui n'étaient pas loin de là où il était ont entendu et savaient que la police était à côté, donc ils se sont enfuis. Et à partir de là, les gens l'appellent l'homme céleste, « The Heavenly Man », l'homme qui vient du ciel. Et c'est vraiment, son témoignage est absolument émouvant. C'est ce que les hommes, comme vous et moi, sont capables d'endurer au nom de Jésus. Parce qu'ils ont intégré ces fondamentaux, la réalité de Dieu, la réalité de Jésus. Ce ne sont pas comme nos amis évangéliques américains qui vont commencer à dire que, oui, finalement, vous comprenez, c'est au nom de la diversité, il ne faut pas dire que c'est Jésus parce que cela risque d'offenser quelqu'un. Vous savez, c'est curieux, je connais beaucoup d'athées, ils ne se sont jamais gênés pour m'offenser. Mais ils ne se sont jamais gênés. Il n'y a pas un seul d'entre eux qui m'a dit... Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, juste pour ne pas m'offenser. Pas un seul. Ils sont toujours très fermes pour dire non, je ne suis pas d'accord, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et moi, je suis toujours très ferme pour dire si, il est. Puisque nous sommes des adultes et des gens matures, on n'est pas vexés. Comme disent les Anglais, we agree to disagree. Et c'est important qu'en tant que chrétiens, nous ayons cette fermeté dans notre foi, les principes qui guident nos vies. We agree to disagree. Oui, tu veux m'imposer, je ne t'impose rien. De toute façon, c'est impossible de t'imposer la foi chrétienne parce que c'est une question de cœur. Si tu ne la veux pas, tu ne peux pas la voir. Pourquoi te l'imposer? Mais vu que nous sommes en train d'échanger, vu que je sais que c'est bon pour toi, je serais fautive de ne pas t'en parler. Maintenant, tu as tout à fait le droit de dire que tu n'en veux pas. Mais franchement, ce serait ne pas t'aimer que de ne pas t'en parler. Oui, mais vous, vous êtes borné, vous êtes... Qu'importe, moi aussi, je pensais ça avant. Alors, ne trouvez pas étrange de souffrir pour l'évangile. Ici, ils sont dans la fournaise de l'épreuve. Ça, ce n'est pas... Oh, mon frère m'a dit que j'étais borné. Non, ça, ce n'est pas la fournaise de l'épreuve. C'est un peu comme le petit qui me parlait de ses discussions sur Twitter. Et on dit, ah, oh, je souffre pour l'évangile, je ne souffre pas encore. Tu ne souffres, ça ce n'est pas la souffrance. Maintenant, nous ne cherchons pas la souffrance. N'allons pas insulter les gens juste pour qu'ils nous insultent. Je souffre pour Jésus. Non. Mais quand ça vient. Alléluia. Je bénis tous les gens qui ont souffert pour l'évangile quand ils me parlaient de Dieu. Que j'ai insulté copieusement, que j'ai méprisé, que j'ai dénigré. Alors, quand les athées utilisent la dérision contre les chrétiens, j'étais maître de la dérision. Entre la Bible, leurs pratiques religieuses, enfin, tout y passait. Tout y passait. God is so good. Alors, ne trouvez pas cela étrange? Je vais le répéter encore pour que ça pénètre. Alléluia. Et vous savez, l'épreuve à leur époque, c'était du genre, on vous met dans l'arène et on vous jette aux animaux sauvages. Dans un stade rempli de milliers de personnes qui regardent et qui se moquent. Et qui prennent plaisir à voir le sang des chrétiens. Ce n'est pas, on nous traite d'intégristes. Glory to God! Alors, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. La fournaise de l'épreuve, à l'époque, on allait les arrêter chez eux. On les mettait dans des donjons. Après, on les tuait. Et quand Néron a eu l'idée saugrenue de mettre le feu à Rome, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que c'était les chrétiens. Alors, c'était la chasse libre des chrétiens. Et les chrétiens, ils appelaient les chrétiens les athées. Vous savez pourquoi? Parce que les Romains avaient tout un panthéon de dieux, n'est-ce pas? Et il fallait adorer ces dieux, et le dieu, c'était César lui-même. Et il fallait brûler en sacrifice au nom de César. Et les chrétiens refusaient de le faire. Et parce que les chrétiens ne reconnaissaient qu'un seul dieu, ils devaient être des athées. Et ensuite, c'était des cannibales. Parce qu'ils se réunissaient pour prendre la chair et le sang de leur Dieu. Maintenant, nous, ça nous paraît, oh, quand même. Mais c'est exactement le même genre de distorsion qui existe dans notre génération sur notre foi en Jésus. Si le Seigneur ne revient pas dans notre génération, une autre génération va regarder ce que les gens disent sur nous aujourd'hui, va dire, mais c'est ridicule. Mais c'est ce qu'ils disaient des chrétiens à l'époque. Et je pense encore à cet homme, Polycarpe, évêque de Smyrne, qui était un disciple de l'apôtre Jean et qui était un des martyrs. Il avait plus de 80 ans. Ils sont allés le chercher. Ils lui ont dit, mais dis que César est Seigneur. Avec tes cheveux blancs, tu ne vas quand même pas te laisser tuer. Il a dit, ah non. Toutes ces années, il a numéré le nombre d'années, je l'ai servi. Il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je renier mon sauveur qui m'a sauvé? Il a accepté de souffrir le martyr. Souffrir le martyr à l'époque, ce n'était pas du genre, on me martyrise au travail. À cet âge où il pouvait dire, non, mais je veux mourir tranquille, Seigneur, j'ai donné. Il a accepté de perdre la vie pour ne pas dire César est Seigneur. Alors, qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui à renégocier l'évangile simplement pour ne pas être critiqués? Et nous allons nous tenir un jour devant Dieu avec ses saints qui, eux, ont perdu leur vie et n'ont pas renoncé à l'évangile. Et nous allons dire, oui, mais vous comprenez, sur YouTube, ils disaient qu'on était des intégristes. Seigneur, pardon, je n'ai pas eu honte de toi, mais c'était trop dur au travail. Je voulais la promotion, ils risquaient de ne pas me donner les 100 euros supplémentaires si je disais que j'étais chrétien. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il leur dit de faire face à la persécution? Au verset 13, « Réjouissez-vous !» Vous voyez un petit peu comment la logique de Dieu est différente de la logique du monde? Toute notre vie vient de Dieu, nos principes viennent de Dieu, nos pensées viennent de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, lorsque vous êtes persécuté à cause de votre foi, vous devez vous réjouir. Et pas, oh, c'est pas juste, Seigneur, moi qui voulais être chrétien, je ne peux plus, c'est trop difficile. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez, écoutez bien, aux souffrances de Christ. Glory to God! C'est un honneur d'avoir part aux souffrances de Christ. This is good! afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Afin que nous n'ayons pas honte à son avènement. Au verset 14, je suis sûre que vous ne connaissiez pas ce verset. Sinon, vous n'auriez pas refusé de parler à cet homme en disant « Ouais, mais il va m'insulter. » Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alléluia! Alléluia! C'est extraordinairement bon. Oh, Jesus. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. En d'autres termes, lorsque les gens vous outragent à cause de Jésus, il y a une dimension de la gloire de Dieu qui vient sur votre vie. Si vous la recevez, si vous passez votre temps à vous plaindre, c'est autre chose. God is good. Dieu a une réponse à tout. C'est ça qui est merveilleux. Au verset 15, ça c'est très important. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Dieu connaît son peuple. Alléluia. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Je vous invite à méditer ces passages. Et à demander à Dieu cette hardiesse qui consiste à aller dans votre génération avec votre foi sans craindre la réaction de qui que ce soit. Et à ne pas renégocier les principes de l'évangile pour vous faire des amis. Ou pour garder ceux que vous avez déjà. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Là, il parle de leur vie quotidienne et ceux qui vivent à cause de leur foi. Ici, l'apôtre Paul parle de son œuvre et son service pour le Seigneur. Et ton œuvre et ton service pour le Seigneur va impliquer une certaine mesure de souffrance parce que tu es sur terre, parce qu'il y a des choses difficiles qui arrivent. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Nous sommes en train de voir le fait que ce que nous croyons doit nous conduire sur un autre chemin de vie que le chemin de vie sur lequel se trouvent les gens qui ne partagent pas la foi en Dieu. La réalité de Dieu conduit à certaines présuppositions, conduit à certains principes, conduit à certaines valeurs qui vont être différent des présuppositions, des principes et des valeurs des gens qui n'intègrent pas la réalité de Dieu. Il est important que l'Église le comprenne, que chacun de nous le comprenne et que nous décidions que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre appel est d'aimer les gens, non pas de changer les principes de Dieu pour qu'ils nous trouvent acceptables. Lorsque nous savons aimer, les gens seront satisfaits de l'amour que nous avons pour eux. Parce que le plus grand besoin de l'être humain, ce n'est pas que vous soyez d'accord avec lui. Le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'être aimé. Et ça, nous l'avons. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Nous avons ce dont le monde a besoin. Nous avons l'amour de Dieu. Ce dont le monde a besoin, ce n'est pas que l'Église capitule. Je parlais une fois avec une personne que j'ai rencontrée au travail. On commençait à parler, la personne, et en apprenant que j'étais chrétienne, en plus que j'étais servante de Dieu, a voulu parler avec moi. Elle est revenue me voir quelques jours après pour m'inviter à déjeuner pour qu'on puisse discuter. Et nous avons discuté. C'est quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui est à la recherche, mais qui est un peu dans la confusion. Parce que la voix de l'Église est un peu dissoute dans le mouvement ambiant. Et il commençait à me poser des questions sur des choses spécifiques. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Et sur des questions de société, alors, quelle est ton opinion sur ceci, sur cela? Et il a dit, mais est-ce que, dans le temps, il connaissait un évêque de l'église anglicane, un homme pour qui il avait beaucoup de respect, un homme qui aimait Dieu et qui vraiment faisait beaucoup de bien pour les gens autour de lui. Et au fil du temps, cet évêque a évolué. Évolué. Et dernièrement, cet évêque a commencé à dire que oui, l'Église doit se mettre en phase avec la société. Et donc, a commencé à dire, oui, mais finalement, telle pratique, il n'y a pas de problème. Après tout, nous avons évolué. Il me dit, donc, tu n'es pas d'accord? Je dis, non, je ne suis pas d'accord du tout. Il me dit, pourquoi? Je dis, si l'Église est une institution humaine, oui, elle doit se mettre en phase avec la société. Mais si l'Église est une institution divine, elle doit être une voie prophétique. Elle doit parler selon l'optique de Dieu et non pas suivre le monde. Et cela a toujours été le cas. Lorsque l'apôtre Paul a été lapidé parce qu'il a dit ce que les gens ne voulaient pas entendre, il ne restait pas moins qu'il y avait des gens qui ont entendu et qui se sont convertis. N'est-ce pas? Lorsqu'il est arrivé sur le continent européen, qu'il est allé à Philippe, qu'il a rencontré ces gens qui étaient là au bord de la rivière, il a commencé à leur parler de Jésus. S'il était allé là-bas pour leur dire, bon, finalement, je ne veux pas vous gêner, vous avez beaucoup de dieux, c'est pareil, je vous présente un dieu de plus. Est-ce que vous savez qu'il n'y aura pas la révolution qui s'est passée, la révolution chrétienne qui s'est passée sur le continent européen? Tous seraient, les uns et les autres seraient restés idolâtres. On aurait eu Jésus parmi tous ces dieux. Tous les dieux. Mais il est allé là-bas pour leur dire, je viens vous annoncer un message différent. Je vais vous annoncer quelque chose d'autre. Lorsqu'il est arrivé à Athènes, c'est la même chose qu'il leur a dit. Il a dit, mais vous avez votre inscription vers ce Dieu inconnu. Je viens vous parler de ce Dieu inconnu. Je viens vous dire que jusque-là, les gens adoraient ceci, adoraient cela, mais Dieu, je veux vous montrer qui est vraiment ce Dieu. Et les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-ci? Mais c'est n'importe quoi, son truc, c'est ce qu'il raconte. Et ils n'ont pas trouvé ça merveilleux au début, mais après, les choses ont changé. Alléluia. Alléluia. Une voix prophétique. Dites une voix prophétique. Il y a un autre principe de base qui découle inéluctablement de notre confession de foi. Nous allons continuer sur cela la semaine prochaine parce que le temps passe. C'est le discipulat. Lorsque nous saisissons que, comme a dit Jay Richard, que Dieu est la réalité ultime à partir de laquelle toute chose découle, je traduis librement, la réalité fondamentale, à partir de laquelle toute chose découle. Et lorsque nous saisissons la grandeur de Jésus et cet amour merveilleux que Dieu a pour nous, nous comprenons d'abord que nous n'avons rien d'autre à faire, premier, que d'aimer ce Dieu, de lui, d'être réciproque, de lui donner la réciprocité, l'amour dont il nous a aimés, de l'aimer de la même façon qu'il nous a aimés. Mais il y a aussi un autre aspect qui est important quand on parle de discipulat, c'est ce désir d'imiter, d'être comme. Et quand vous commencez à méditer sur Jésus, celui qui était sans péché, qui a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Jésus-Christ, celui qui était à l'image de Dieu, qui est à l'image de Dieu, qui est le reflet de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui existait en forme de Dieu, mais qui n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qui s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un homme. Quand on commence à méditer sur la personne de Jésus, on n'a qu'un seul désir, le suivre. Fondamental devenant principe de vie. Principe de vie pour dire je veux être son disciple, je veux être exactement comme lui. Je vous ai parlé de mon neveu qui a dit qu'il voulait, quand il a quel âge mon neveu? Il a 5 ans? Il a 5 ans. Oui. Il a 5 ans, non pas le grand, le petit. Il a 5 ans et il dit que quand il va grandir, il va travailler à la bourse. Il y a des adultes qui ne savent pas ce que c'est la bourse. Mais à 5 ans, il sait ce que c'est la bourse. Il dit qu'il va travailler à la bourse. Et il va investir à la bourse. Il va travailler dans une banque. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut être comme papa. Il veut être comme papa. Et la révélation de Dieu, la révélation de Jésus, lorsque ce principe, cet élément fondamental de la foi chrétienne est réellement intégré en nous, le principe qui en découle naturellement, c'est le discipulat. Je veux être comme papa. Je veux le suivre. Je veux penser comme lui. Je veux le servir. Je veux faire comme lui. Je veux être identique à lui. Je veux marcher comme il a marché. Et je vois Jésus, quand je l'admire dans sa marche sur la terre, tout ce que je veux, c'est de marcher là où il a marché. De mettre ma main dans la sienne. Et quand je n'ai pas cela en moi, cela veut dire que je n'ai pas réellement la révélation de Jésus. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'Esprit de Dieu est celui qui illumine les yeux de nos cœurs. Et c'est là où notre vie chrétienne n'est pas un fardeau ou une liste de règles à suivre. On m'a dit que je dois lire la Bible tous les jours, donc je dois... Oh, alléluia, parce que si je ne lis pas, Béa va me demander quel passage j'ai lu. Ah, les psaumes, voilà. Je lui dis que j'ai lu les psaumes. C'est pour ça que les gens, que les psaumes sont les parties les plus lues des Bibles, les gens. C'est ce désir de lire quelque chose pour lire quelque chose, mais le reste, c'est trop compliqué. Alors, les psaumes, en plus, c'est court. Ça se lit vite. Amen. Gloire à Dieu. Tout cela est symptomatique d'une absence de révélation. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu donne la révélation. Et nous ne pouvons pas nous passer de la révélation. Parce que, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons, il y a toujours des défis. Je vous ai un peu parlé de l'Église primitive et de quelques défis, des difficultés qui parfois impliquent être dévoré par des lions. C'est vrai que c'est un défi, n'est-ce pas? Et même ceux qui n'étaient pas dévorés, vous pensez à ce qu'ils ont vécu en Judée. N'est-ce pas? Les apôtres, une fois, avaient été arrêtés et mis en prison, et Dieu, dans sa grandeur, a envoyé un ange pour les libérer. Et nous, on aurait pensé, « Ah, Seigneur, merci, maintenant tu m'envoies sur la côte ouest des États-Unis. » Vous voyez qu'il y a beaucoup de soleil là-bas, en Californie. Comme ça, je vais être tranquille, on ne va plus me déranger. Non, l'ange est allé les libérer, vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit d'aller dans le temple, de commencer à annoncer l'évangile. Ils avaient été arrêtés parce qu'ils annonçaient l'évangile. Dieu les a libérés et les a renvoyés sur le champ de bataille. Glory to God. Hallelujah. Vous connaissez l'histoire de votre grande sœur là qui est derrière, qui allait évangéliser au Châtelet avant. Vous connaissez l'histoire? Elle allait toutes les semaines évangéliser au Châtelet. Et un jour, en évangélisant au Châtelet, il y a quelqu'un qui l'a rencontré, qui l'a bien secoué. Bien secouée, et elle était tellement fatiguée, elle n'est plus retournée évangéliser au Châtelet. Et Dieu a envoyé son ange pour les libérer de la prison. Il leur a dit d'aller se remettre dans la gueule du loup. Au temple! Il n'a pas dit, bon, allez dans un coin de rue, faites une petite réunion de maison. Il a dit, allez vous mettre dans le temple et commencez à annoncer la parole de Dieu. Et quand ils sont allés les chercher, ils ont amenés encore devant le Sanhédrin, ils étaient énervés. Mais on vous a dit d'arrêter! On vous a dit d'arrêter! Et ils ont dit, ben, jugez pour vous-même. Est-ce que nous devons obéir à Dieu ou obéir aux hommes? C'est la question qui se pose à notre génération. Est-ce que nous allons obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Glory to God. Mais ils avaient la révélation de Dieu. Remercions le Seigneur pour cette parole. Glory to God.